L'enseignement que je veux partager avec vous ce matin s'appelle « Gérer l'offense ». On va me dire, mais pourquoi enseigner là-dessus dans un séminaire sur le thème de la joie du Seigneur ? Parce que s'il y a une chose par excellence qui nous ôte notre joie, c'est bien les offenses qu'on n'arrive pas à gérer dans notre vie. Il y a un piège principal de l'adversaire qui se trouve sur le chemin de chacun de nous, c'est le piège de l'offense, celui de se laisser offenser plus précisément. Ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être entre mari et femme, ça peut être entre églises, ça peut être entre pasteurs. L'offense, elle vous mine. Il y a toujours quelqu'un, vous avez remarqué, il y a toujours quelqu'un pour vous offenser. Vous vivez dans le même monde que moi. Je ne sais pas, il y a toujours quelqu'un pour dire ce qu'il ne faut pas, quand il ne faut pas, comme il ne faut pas. Mais si nous sommes honnêtes, ça nous arrive aussi régulièrement de rentrer le soir, de dire, dis donc, j'aurais mieux fait de fermer ma bouche là. Et parfois même de se dire, j'ai essayé d'être spirituel là, mais j'étais vraiment à côté de la plaque. Ou j'ai blessé quelqu'un, je ne voulais pas, et j'ai blessé quelqu'un. Alors, nous sommes appelés en tant que chrétiens, et je veux vous encourager à travers ce message, à ne pas laisser les offenses vous atteindre, c'est-à-dire à produire un fruit d'amertume, de ressentiment, de non-pardon, parce que ça, ça ôte la joie. Ça court-circuite la joie. Et je veux vous encourager aussi à tout faire de notre côté pour de moins en moins offenser les autres. Si vous êtes marié, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est important dans le couple, c'est le pardon. Mais ce n'est pas parce que votre femme vous pardonne régulièrement que vous dites « alors c'est bon, je peux continuer à faire les mêmes bêtises ». Le mieux, c'est de s'améliorer quand même, pour que l'autre ait de moins en moins à vous pardonner. Il ne faut pas utiliser le sang de Jésus comme un passe-partout. Amen. Et un prétexte pour ne pas évoluer, parce que la sanctification, c'est évoluer. Amen. Donc, devenir parfait, vous n'y arriverez pas. Mais quand vous évoluez chaque jour, Seigneur vous lave automatiquement par son sang. Vous n'avez même pas besoin de lui demander sans arrêt pardon toute la journée. Parce qu'il vous voit évoluer. Il vous voit dans la bonne volonté. Alléluia. Mais quand vous régressez, que vous repartez en arrière, et c'est ce qui se passe parfois avec beaucoup de chrétiens, avec les années, au lieu de devenir meilleur, ils deviennent pires. De réunion en réunion, ils deviennent pires. L'idée de venir à une réunion, c'est de devenir meilleur avec ce qu'on a reçu, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Combien nous avons de maris ici, ce matin? Combien d'épouses? Voilà, donc vous avez la responsabilité de sortir de ce lieu et d'être une meilleure femme et un meilleur mari. Vous serez jugé plus sévèrement qu'avant d'être rentré dans ce lieu. Il ne fallait pas venir! Parce que chaque fois qu'on prend connaissance de certaines vérités, la Bible nous dit de ne pas être des auditeurs oublieux, nous avons la responsabilité de mettre cette vérité en action. Parfois, vous dites, ah oui, mais c'est plus facile pour lui qui prêche. Non, la Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Quand je dis aux maris qu'ils doivent aimer leur femme, j'ai encore plus de boulot que vous à la maison. Parfois, je me dis, j'aurais pas dû dire ça. Alors, il y a trois raisons particulières pour lesquelles il est important de ne pas laisser, d'apprendre à ne pas laisser les offenses nous atteindre. Et à tout faire pour de moins en moins offenser les autres. La première, elle est très simple, parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Marc 11, 25, pardonnez, afin que votre Père vous pardonne aussi, mais pardonnez. Qui veut faire la volonté de son papa ici? Voilà, vous voulez faire la volonté de papa? Parfois, il ne faut pas aller réfléchir plus, je veux obéir. Dieu, il prend plaisir à l'obéissance. Amen, il ne nous faut plus des chrétiens qui sont là, je me sens pas. Dieu ne te demande pas de te sentir, il te demande d'obéir. Imagine que lundi, tu téléphones à ton patron et tu lui dis, patron, je ne vais pas venir au boulot, peut-être je ne viendrai pas de 15 jours. Et il te dit pourquoi? Je ne me sens pas. Lui, il va te dire, moi je me sens de te virer. Vous voyez, ça nous paraît une évidence là pour les choses de la vie de tous les jours. Et parfois, dès qu'il s'agit des choses spirituelles, vous avez remarqué, on va être à l'heure pour être sur son lieu de travail, mais pour venir à l'église, tout ce qui s'agit des choses spirituelles, c'est comme si c'était un autre monde. Or, si on honore notre patron, vous ne croyez pas qu'on est supposé plus honorer Dieu ? Amen ? Je continue à prêcher ? La deuxième raison, c'est que lorsque nous retenons aux autres leurs offenses, nos propres offenses nous sont retenues contre nous. Donc nous sommes perdants. Pardonne-nous nos offenses comme nous, c'est-à-dire à condition que nous pardonnions aussi aux autres qui nous ont offensés. Nous avons chanté le Notre Père tout à l'heure. D'ailleurs, on n'a pas fait esprit. On a choisi ce chant sans penser au message. Vous voyez l'Esprit de Dieu. Le Notre Père, moi, je l'appelle la prière ping-pong. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que ce n'est pas une prière qui marche dans un seul sens. Pardonne-nous nos offenses, ping, comme nous pardonnons, pong. Que ton nom soit sanctifié. Oui, mais à partir de l'instant où je prie que ton nom soit sanctifié, j'ai la responsabilité de tout faire pour sanctifier le nom de Dieu, parce que les gens... Il y a un verset qui dit « Mon nom est blasphémé parmi les nations à cause de vous, parce que le nom de Dieu il est sanctifié par nos comportements. » Que ton nom soit sanctifié. Ping. Seigneur, je décide de sanctifier ton nom par mon comportement. Pong. Vous avez compris ? Et vous pouvez faire ça avec tout le Notre Père. C'est parce que c'est facile de prier des prières qui ne nous engagent pas. On l'a vu hier. Seigneur, je voulais que tu fasses ça. Oui, mais je t'ai donné l'autorité pour le faire, toi. Et je vais le faire à travers toi. Ah. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Oui, mais je ne me sens pas de lui pardonner. Personne ne te demande de te sentir. La vie chrétienne, ce n'est pas « je me sens », c'est « j'obéis », parce que je sais que c'est bon. Est-ce que vous comprenez? Il y a des jours où vous vous sentez de mettre une bonne gifle à certaines personnes que vous rencontrez. Si vous faites que ce que vous sentez de faire, vous allez avoir des problèmes dans la vie. La troisième raison est que l'offense qui n'est pas gérée est une occasion par excellence pour que l'adversaire nous atteigne. C'est la porte ouverte aux maladies. C'est la porte ouverte, nous allons le voir même, à l'action des puissances de ténèbres. La Bible nous dit de ne pas laisser de porte ouverte à Satan pour qu'il n'ait pas le droit. Vous savez que Satan, il marche par des droits. Comme il a légalement perdu ses droits face à la malédiction par Jésus-Christ, il essaye de nous replacer dans des situations où il peut reprendre un droit que Jésus ne peut pas lui contester. Et souvent on dira, c'est Dieu qui a fait ça, c'est pas Dieu qui a fait ça, c'est nous qui avons donné un droit à Satan, et Dieu n'a pas pu l'empêcher de faire certaines choses. Parce que tout marche dans ce monde en fonction des droits. Et Jésus nous a rachetés légalement. Dieu ne pouvait pas juste claquer des doigts pour nous racheter, il fallait que légalement son Fils unique vienne mourir sur cette terre. Donc le diable essaye de nous placer en position où il a des droits, des entrées, des portes ouvertes selon les traductions, des prises dans notre vie. Éphésiens 4, 27. Être offensé est une porte par excellence qui lui permet de nous frapper, particulièrement sous la forme de la maladie. Pourquoi ? Qu'est-ce que l'offense produit en nous ? Le ressentiment, l'amertume, des blessures intérieures, l'humiliation, l'obsession, la colère, le désir de vengeance. Chacune de ces choses attire un jugement. Et ce principe est expliqué dans Matthieu 18, versets 21 à 35, où Jésus raconte à Pierre la parabole d'un roi qui remit à un de ses serviteurs la dette qu'il avait à son égard. Et puis ce serviteur, il rencontre quelqu'un qui lui doit à lui quelque chose. Et il le fait mettre en prison. Et lorsque le maître, il entend dire ce qui s'est passé, il fait venir ce serviteur et lui dit, « Ne devais-tu pas remettre, toi aussi, ce qui t'était dû, comme je l'ai fait avec toi ?» Alors le maître, il est très en colère. Et la Bible nous dit qu'alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et son maître, irrité, le livra au bourreau, au geôlier, selon les traductions, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Moi, je ne veux pas que Dieu soit en colère avec moi. Amen. Et Jésus ajoute, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Wow. Il est dit que le maître le livra au bourreau. Selon les traductions, le livra au geôlier. Et selon une autre traduction encore, le livra au tourmenteur. Tourmenteur, ce terme correspond bien à ce que sont les démons. Ils viennent pour tourmenter. Comment est-ce qu'ils tourmentent ? Déjà, comme on l'a vu, par toutes ces choses qui peuvent être engendrées dans le cœur d'un homme quand il laisse l'offense prendre pied en lui. Les tourmenteurs tourmentent par la blessure que cause l'offense et qui grandit, la frustration que cause l'offense, l'amertume, ça tourmente l'amertume. Vous n'arrivez plus à dormir parfois et vous voyez l'image de la personne qui vous a offensé passer et repasser. Et au lieu que ça s'arrange, vous vous levez le lendemain matin, c'est pire. Vous vous dites, je ne vais pas pardonner à ma femme, on verra ça demain. On va se coucher là-dessus, sur cette colère, et ça ira mieux demain. Mais le matin, vous vous levez et vous rendez compte que votre cœur, il est encore plus dur qu'avant de vous coucher. Parce que le diable, il a travaillé pendant la nuit. Amen. Et tu laisses passer une autre nuit et un autre jour. Et puis un jour, tu te lèves et tu n'as plus rien en commun avec cette femme ou ce mari qui est à côté de toi. Et parfois, vous savez, ça part de pas grand-chose, l'offense. On commence à pas pardonner les petites choses. Et ces petites choses s'accumulent les unes sur les autres et deviennent une grosse chose. Quand vous regardez parfois pourquoi certaines personnes en sont arrivées à divorcer, qu'elles vous racontent ça des années après, elles-mêmes, elles sont étonnées de s'être laissées prendre à un tel jeu. C'était au début le poulet qui était trop cuit. Le poulet, il est trop cuit, chérie. Alors la femme, elle répond, t'as qu'à te le faire cuire toi-même alors. Et là, le mari dit quelque chose qu'il ne faut jamais dire, messieurs. Si ça avait été ma mère, elle aurait fait comme il fallait. Jamais dire ce genre d'affaires. Et là, la femme a dit, eh bien, retourne chez ta mère. Et vous voyez comment l'offense s'accumule sur une autre offense et une autre offense encore. Et des années après, quand les gens essayent d'analyser pourquoi ils en sont arrivés à ces extrêmes, ben finalement, ils ont été vaincus par un poulet. Non, là où il y a des gens vraiment qui ont des raisons de se retrouver dans certaines situations, on est d'accord là-dessus, il y a d'autres personnes, ça a été juste une petite offense au départ, qu'on n'a pas gérée. On a pris l'habitude de se parler d'une certaine manière dans le couple. Et plus en plus, on a dit, oui, mais il y a tout le monde qui fait ça. Et il y a des chrétiens qui vous disent, oui, mais tout le monde fait ça, c'est pas grave. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on n'est pas tout le monde. On a été racheté à un grand prix, ça doit se remarquer, il faut que les gens disent, ah, c'est pas un couple comme tout le monde. Hey, c'est pas un célibataire comme tout le monde. Alléluia. Amen. Je sais pas si j'ai touché la bonne personne. Je sais pas ce qui se passe. Ne demandez pas ce que je vous touche. Hein. Alléluia. On peut le voir aussi à travers ce passage où on voit Jésus être à Nazareth et ne pouvoir faire beaucoup de miracles. Et quand on lit au départ, il est dit qu'il était étonné de leur incrédulité. Vous vous rendez compte? Il n'est pas dit qu'il ne voulait pas. Parfois on dit Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Ce n'est pas biblique. Il voulait faire beaucoup de miracles. Dans les villages qu'il avait visité dans les jours précédents, tous les malades étaient guéris. Là, il débarque à Nazareth, il a du mal à faire beaucoup de miracles. Et dans le texte grec, ça sous-entend qu'il en fit quelques-uns, mais des petits. il était limité par leur incrédulité. Et l'incrédulité, c'était quand même dû à une certaine attitude. La Bible nous précise quand même qu'il était pour eux une occasion de chute, et une autre traduction, en anglais, la King James, elle dit, ils étaient offensés par lui. Vous voyez ce que l'offense fait ? Elle empêche la puissance de l'onction de passer. Et là, on dit, c'est Dieu qui ne voulait pas bénir. Dieu, il voulait bénir. Mais il faut travailler à créer un terrain dans lequel le Saint-Esprit il est à l'aise. Vous savez, le diable, il a besoin d'un terrain pour travailler. Le terrain de la peur, on l'a vu hier. Le terrain du souci. C'est pour ça qu'il veut nous plonger dans la joie, dans la tristesse et dans la dépression. Parce que si la joie du Seigneur est ma force, quand il me lève ma joie, il me lève ma force. Okay? Mais Dieu, il a besoin d'un terrain pour travailler. Un terrain de la confiance. Un terrain où on a déblayé les offenses pour que le diable n'ait pas de prise. Étant offensé par lui, parce qu'il disait, parce qu'il représentait aussi, eh bien, le résultat fut que, justement, il n'y a pas eu de résultat. Ne pensez-vous pas que ce facteur empêche de même beaucoup de chrétiens d'être bénis, voire guéris ? On est offensé par celui qui ne nous a pas dit bonjour à l'église. Pas ici, à Toulon, ça arrive. On est offensé par le pasteur, par le frère un tel. On trouve tellement de raisons pour être offensé. Hé, il faut changer de planète si tu ne veux plus être offensé. Tant que tu seras sur cette terre, tu seras offensé. Et tant que tu seras dans l'église et que tu y seras, justement, elle sera imparfaite. Il faut se faire cette idée de suite. Si tu cherches l'église parfaite, tu ne la trouveras pas. Amen. Parce que l'apôtre Paul, il écrit à des églises qui ont toutes des choses à régler. Et des gens qui s'offensent. Mais on peut de moins en moins s'offenser. Et le pouvoir que nous avons sur l'offense, c'est le pardon. C'est de vaincre le mal par le bien. Alléluia, chérie, tu m'as dit ça, mais je ne vais pas le prendre comme ça. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas fait exprès. Allez. Amen. On s'aime tellement que Dieu, il est plein de miséricorde. La miséricorde, c'est la compassion, c'est plutôt la faculté qui nous pousse à pardonner facilement. Dieu, il n'a pas un peu de miséricorde, il en est plein. Et il nous demande de marcher sur ses traces. Si tu veux que ton couple il fonctionne, il faut que tu sois un mari qui n'a pas un peu de miséricorde, mais qui a beaucoup de miséricorde. Il faut que tu sois une femme qui n'a pas un peu de miséricorde, qui a beaucoup de miséricorde. Tu vas dans le ministère, tu as intérêt d'être un pasteur qui a beaucoup de miséricorde. Alléluia. Moi, j'ai été pasteur pendant 20 ans. Alléluia. Dieu m'a délivré. Gloire à Dieu. Je dirais qu'il m'a appelé à... On ne peut pas faire les deux, avoir un ministère itinérant. Mais j'aime les pasteurs. Alléluia. J'ai compassion pour eux. J'aime les églises locales. Et quand je viens, je ne suis pas là pour dire aux gens ce qu'il faut faire. Je sais que ce n'est pas souvent facile. Alléluia. Et parfois, certains prédicateurs ou évangélistes, ils n'ont jamais tenu une église de toute leur vie. Ils débarquent chez vous, ils veulent vous donner des leçons pour vous expliquer comment ça doit marcher. Qui garde une église 15 jours, ok ? C'est comme papa qui rentre du travail, qui dit « Il y a 4-5 enfants à la maison. Alors, c'est encore en désordre ici ? Laisse-lui garder les gosses 2 jours. » Il va te téléphoner au bout d'un jour et demi pour te dire « Chérie, reviens vite à la maison. » Vous savez, il faut apprendre à se mettre à la place des autres. Hein, c'est comme les gens, vous êtes malade, là, tu manques de foi. Vous savez, ils te regardent là, comme si tu n'es pas assez spirituel. Jusqu'au jour où c'est lui qui est malade, c'est fou la compassion qu'il a après pour les autres. Alléluia. Alors, il y a différentes formes d'offense et différentes raisons pour lesquelles on peut offenser les autres. Il y a des offenses qui sont la conséquence de notre... Et ça, c'est un mot qu'il faut connaître, comprendre. Je ne sais pas s'il va vous parler. Susceptibilité. Le problème dans ce cas n'est pas l'offense, c'est notre susceptibilité. Quand on est susceptible, de toute façon, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour ne pas nous offenser. Même quand ils essayent de ne pas nous offenser, on se sent offensé parce qu'ils essayent de ne pas nous offenser. Si vous êtes facilement offensable, le problème, ce n'est pas ce que font les autres. C'est vous. C'est à vous de faire un travail sur vous-même. Si on ne peut rien vous dire, il faut toujours faire attention à ce qu'on vous dit, comment vous pouvez réagir. On doit toujours vous prendre avec des pincettes. Ça, c'est la sœur. Il faut faire attention, hein, quand tu dis cette phrase, il faut... Les frères, il n'y en a pas comme ça. Et beaucoup d'hommes sont comme ça. Leurs femmes et enfants doivent toujours être sur le qui-vive, de peur qu'ils soient froissés, frustrés, de peur qu'ils s'énervent. Eh oh, calme-toi. Calme-toi parce que ça entraîne un jugement. Et les amis, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, je vais vous dire une chose, retenez cela, et je le dis pour moi le premier, il y a des choses avec lesquelles Dieu ne va plus faire dans l'Église. Parce qu'il va nous confier plus de puissance, et plus de puissance va avec plus de jugement. Hello. On doit sanctifier son nom. Et il y a des conséquences quand son nom il est blasphémé parmi toutes les nations. Et nous qui sommes dans le ministère, on est jugé encore plus sévèrement parce que si on fait le même péché que notre, le péché lui-même, il n'est pas plus gros, mais il a plus de conséquences parce que nous sommes des gens publics. Amen. Si on parle mal à notre femme en public, ça a plus de conséquences que n'importe quel membre de l'Église qui parle mal à son conjoint. Parce que les gens, ils ont besoin de modèles, ils ont besoin de repères. Ils sont dans un monde où il n'y a plus de modèles, il n'y a plus de repères. Et même des gens, ils ne veulent plus se marier parce qu'ils ne croient plus au mariage, dans l'Église. Donc, au lieu de chercher à être les pasteurs superstars, il faut que devant Dieu, on vive ce qu'on prêche et on prêche ce qu'on vit. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, il faut discerner parmi les gens qui nous offensent qu'il y a ceux qui sont maladroits aussi. Parfois, ils ne font pas exprès. On a tous été comme ça et on l'est encore régulièrement. Ils ne nous voient pas qu'ils nous blessent. Ils ne se voient pas. Ensuite, il y a ceux qui sont ignorants. Quelqu'un vient vous trouver et vous dit « Qui ne comprend pas pourquoi, en tant que femme, vous prêchez l'Évangile ?» Il est ignorant, on ne lui a pas enseigné. On lui a même sorti des versets bibliques pour lui dire « La femme ne peut pas enseigner, etc. » Il est de bonne volonté. Il ne faut pas lui parler mal. Il faut lui dire, voilà, je vais t'offrir une brochure, je vais t'offrir un enseignement. Il faut grandir. Amen. Les enfants, ils font beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas faire, mais on ne leur en tient pas rigueur parce que ce sont des enfants. Il y a ceux qui débordent aussi. Il y a des personnes qui ont une tendance à toujours déborder. Ils en font trop, ils en disent trop régulièrement. Il n'est donc pas évident pour eux de ne pas finir par offenser quelqu'un avant la fin de la journée. C'est souvent parce que ces gens sont en cours de guérison. Okay? Elles ont besoin qu'on relativise plus avec elles, qu'on accorde moins d'importance au poids des mots. Elle a dit ça, mais elle ne comprend pas vraiment ce qu'elle dit. Hein? Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font alors qu'ils l'avaient crucifié. » Vous imaginez? Quand je pense à ça, je me dis, « J'ai encore un peu de travail à faire sur moi. » Alléluia. Et même en tant que serviteur de Dieu, je vais être honnête avec vous. À un moment donné, j'avais une équipe apostolique qui travaillait avec nous. Et les gens ont tellement fait de couffes. J'ai eu l'impression qu'à un moment donné, on avait ouvert plusieurs églises, qu'ils avaient cassé tous mes jouets, quoi. Et c'est difficile, vous connaissez ça, les serviteurs de Dieu, les connaissez aussi. J'ai l'impression qu'il a confié des choses aux gens, ils t'ont cassé tous tes jouets, tu vois, il faut tout refaire. Mais j'ai réfléchi avec les années passantes, je me suis dit, si je ne pardonne pas, je vais finir sans amis. Dans la vie. Hein? Des fois, en tant que serviteur de Dieu, on s'est dit, non, avec lui, j'ai déjà goûté, avec lui, j'ai déjà donné. Mais il faut qu'on pardonne et qu'on nous pardonne aussi parce qu'on a fait des erreurs. Et je me suis réconcilié avec plusieurs personnes et en ce moment, on rebâtit l'amitié. Alors, on n'est pas obligé de retravailler de la même façon, de faire les mêmes choses. Il faut être sage aussi, alléluia. Mais je ne veux pas finir sans amis. C'est vite fait de finir sans amis, alléluia. Il y a l'immaturité, donc je l'ai dit tout à l'heure. Un enfant, si vous ne prenez pas en considération que c'est un enfant, il va vous frustrer chaque jour. Si la maman ne prend pas en considération que son petit, c'est un petit, elle va être frustrée toute la journée. Hein. Tu ne comprends pas qu'il faut aller se coucher à l'heure. Mais il y a plus grave. Il y a aussi l'offense qui est issue de la méchanceté. Et ça, ça existe aussi dans l'Église. Et ça, c'est plus grave. Et ça, c'est jugé plus sévèrement. D'autres fois, des gens qui vous ont offensé l'ont vraiment fait par méchanceté. Les chrétiens peuvent être très, très méchants lorsqu'ils se laissent reprendre et inspirer par des mauvais esprits. Plus subtil, beaucoup de gens vont vous blesser sous prétexte même de zèle religieux. C'est très bien ici de prêcher. On sait à chaque instant où on en est au niveau des... Si j'entends, là, je vais faire attention. C'est parce que c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous croyez qui les offense, comme avec Jésus. Alors, même que vous ne recherchez pas à les offenser, ils ont leur idée de ce que doit être un serviteur de Dieu. Et tu débarques là avec ta tresse, ça les offense. Jésus, à un moment donné, il guérit un aveugle en faisant du crachat avec de la boue. T'imagines, on fait un appel, hein? Je demande au pasteur Siri, est-ce que tu peux aller chercher un seau de boue? Et on vous oint de boue. Et parce que Dieu me l'a montré, vous allez être guéri comme ça. Et peut-être qu'il y aurait beaucoup de gens qui ne veulent pas qu'on leur pourrisse leur costard et qui ne s'avancent pas à l'appel. Une autre fois, Jésus il guérit un autre aveugle. Alors, la Bible seconde dit en mettant du crachat sur ses yeux. Il a été gentil, second, parce que le grec, il ne dit pas ça. Le grec, il dit en crachant sur les yeux. Donc, le gars s'est avancé à l'appel. Tu t'imagines ? On est allé dimanche à un séminaire chez pasteur Cyril et Laurence. On s'est fait cracher dessus. Non, honnêtement, si tu ressors, tu es guéri, tu t'en fous qu'on t'a craché dessus. Par contre, si tu n'es pas guéri, tu es... Celui qui l'a fait dans de mauvais draps. Je dis ça aussi parce qu'il y a toujours toute une catégorie de chrétiens aussi qui voient Dieu agir de manière folle dans certains rassemblements ou sous une certaine onction lors d'une certaine délivrance. Ils sortent, ils refont la même chose. Mais c'était la direction de Dieu pour un moment particulier. Est-ce que vous comprenez? Je connais un serviteur de Dieu, je crois que c'est Kenneth Hagin toujours. À un moment donné, il y a une personne qui s'avance pour l'imposition des mains, elle a une grosseur là. Et il prie, il reprie, il n'y a rien qui se passe. Et le Seigneur lui dit, donne un coup de poing dans la grosseur. Et il fait comme s'il n'entendait pas assez. La personne va se rasseoir. Et le Saint-Esprit insiste tellement qu'il a fait revenir. Il donne un coup de poing dans la grosseur et la tumeur disparaît. Alléluia. Mais je connais quelqu'un qui a lu ça dans un livre. Et lors d'une réunion qu'on avait, les gens se sont avancés pour la guérison. Quelqu'un avait une tumeur, boum! Et l'autre, il a pris. Qu'est-ce que tu fais? Il a fallu lui casser la figure. Assurez-vous que c'est bien le Saint-Esprit qui vous parle, on est d'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit, il fait quand même régulièrement des choses pour que notre orgueil soit mis au ras des pâquerettes. Parce que nous, on voudrait dire au Saint-Esprit, voilà, ce week-end, tu vas nous toucher comme ça et comme ça. Tu vas passer par la porte. Et lui, il dit, je vais passer par la fenêtre. Est-ce que vous comprenez? Alors, je veux qu'il y ait une imposition des mains. Vous savez, on s'habitue facilement aux impositions des mains. Je veux... Non. Avec mon épouse, on ne fait plus les appels systématiques. Si on sent qu'il faut le faire, et on l'a senti, on le fait. Sinon, on n'en fait pas. Amen. Les gens sont saturés d'appels et ils ne reçoivent plus rien de toute façon. Est-ce que vous comprenez? Ou alors, on s'avance et on dit, ah, il faut que je tombe par terre. Si je ne tombe pas par terre, ce n'est pas l'onction de Dieu. Vous savez, je connais des gens, ils tombent 20 fois par terre, ils sont aussi méchants. Hein, ils se relèvent, ils sont pires qu'avant. Hein. Autant qu'il reste debout, hein. Et je n'ai rien contre tomber par terre. Quand c'est l'onction de Dieu qui le fait, il y a des réunions, tous les gens tombent par terre, je ne sais pas pourquoi. Mais ce n'est pas obligatoirement les réunions où il y a plus de guérison. Hey. Amen. À la suite de beaucoup de week-ends, on n'a pas fait un seul appel, on reçoit des mails de gens qui devaient subir des opérations dans la semaine et autres. Quelqu'un qui avait un corset, là, je me rappelle, lundi soir, c'est en rentrant chez elle, ça a commencé à chauffer. Ok. Plus besoin d'opération dans la semaine. Des gens qui sont libérés de démons aussi. Pourquoi? Parce qu'il envoya sa parole et les guérit. La Bible dit que pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit descendait. Il commençait déjà son travail sur les gens. Et si tu n'écoutes pas ce que dit la parole, et que tu es juste là en train d'attendre la fin en disant « je veux une bonne imposition des mains », c'est l'immaturité tout ça. Yes. Dès que tu n'auras pas ton imposition des mains, tu es perdu. Hey, hello. Dieu est puissant, sa parole est puissante. Tu peux l'utiliser chaque jour, même quand il n'y a pas de réunion, même quand il n'y a pas un orateur de passage. Ça ne sert à rien de courir tous les prophètes à la mode pour qu'ils prient pour toi et qu'ils te parlent sur ton avenir, parce que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, si le prophète confirme, si le prophète, tu es dans le plan de Dieu dans cette réunion, il te bénira, on est d'accord. Merci Seigneur pour ces ministères, mais pas pour le systématique. Le systématique, c'était sous l'ancienne alliance. On faisait les choses de manière systématique. Sous la nouvelle alliance, Jésus, il est là. Amen. Et lorsque Jésus, il arrive dans un monde où les Hébreux sont encore sous l'ancienne alliance, il se trouve à une piscine où régulièrement un ange descendait. Et puis le premier qui sautait, quand l'ange il avait remué l'eau, il était guéri. Vous voyez, c'était une onction limitée. Il n'y en avait que pour un certain nombre, même pour une élite. Alléluia. Mais Jésus, il brise ça et il guérit le paralytique. Il n'a pas besoin même de se tremper dans l'eau. Amen. Ça veut dire que l'onction de Dieu, elle est disponible pour nous chaque jour. Merci Seigneur pour tout ce qu'on peut tirer de bon de l'ancienne alliance. Merci Seigneur. Mais il y a quelque chose de fantastique qui s'est produit sous la nouvelle alliance. L'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Avant, on montait au temple pour rencontrer la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devenus le temple. N'importe quoi peut être débloqué ce matin. Non pas tant à cause de Claude Payan, mais à cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus. Et s'il y a quelque chose dans ta vie qui fait obstacle, une offense que tu n'arrives pas à gérer, tu attends de sentir quelque chose pour la gérer. Juste obéis au Seigneur. Fais plaisir à papa. Alléluia. Dis, je pardonnerai aux gens qui m'ont blessé. Je ne ferai pas partie de ces chrétiens qui parlent et qui ne font pas. Alléluia. Je vais être un témoignage pour le Seigneur. Oui, peut-être je vais ressortir. Ça va faire encore mal. Pendant un temps, ça va faire encore mal. Mais à la rigueur, c'est ce qui donne de la valeur à mon pardon. Je n'ai pas choisi la voie facile. Les gens me disent, tu es chrétien parce que tu as choisi les choses faciles. Non, j'ai choisi la joie du courage, la voie du courage. Alléluia. Vous pouvez être fiers d'être des enfants de Dieu. Amen. Oh, Kamara Shandarakaya. Donc l'idée n'est pas de changer pour que les gens ne se sentent plus offensés par nous, mais de ne pas rendre l'offense. Si une église vous critique, si un autre pasteur vous critique, si un autre chrétien vous critique, demandez à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour le bénir? Je ne sais pas, moi, s'il doit payer sa facture EDF qu'il n'arrive pas à payer pour la fin de mois et que vous lui faites un beau chèque, je ne crois pas qu'il continuera à vous en vouloir. Mais il faut faire des choses concrètes. Vous savez, la repentance, dans la Bible, elle était suivie de la réparation. Souvent dans les milieux chrétiens, on a levé la réparation de la repentance. Alors on se retrouve, je me rappelle quand j'étais pasteur, je voyais des tas de gens venir, ils pleuraient, ils se repentaient pendant 2 heures le dimanche matin et le lundi, ils recommençaient à faire exactement les mêmes choses. Non, la repentance, c'est vraiment, j'ai fait un retour, donc je passe à autre chose. Et si j'ai blessé quelqu'un, je vais faire quelque chose. Je vais offrir un bouquet de fleurs à ma femme ou faire quelque chose de particulier pour lui montrer que alléluia, c'est ma femme qui dit amen. Ou ce frère ou cette sœur dans l'église, d'accord, on n'a pas réussi à s'entendre, et même quand on parle, on n'arrive pas à s'entendre, c'est possible. Des fois, il faut arrêter de parler, mais on ne va pas rester sur cette touche négative. Je vais faire quelque chose, je vais la bénir. Amen, je vais lui acheter un CD de Claude et Julia. C'est une idée qui me vient comme ça. Hein? Amen. Je vais l'inviter à manger, je vais dire, voilà, on ne va plus parler de ça parce qu'on ne s'entend pas, mais tu es bienvenu. On va manger ensemble dans la paix, on va parler d'autre chose. Je veux te montrer par un acte que je ne veux pas rester à ce niveau-là. Ça, c'est très important. Et souvent, les repentances ne fonctionnent pas parce qu'elles ne sont pas suivies avec un acte. Amen. Une fois dans mon église, j'ai dit, bon, si quelqu'un, vous trouvez qui est pénible dans l'église à supporter, eh bien, éventuellement, à la sortie du culte, vous allez l'inviter pour manger à la maison. Et puis, il y a plusieurs personnes qui sont allées l'inviter, dont elle a dû se douter de quelque chose. Ils en ont terminé. Gérer les offenses consiste à se libérer soi-même. Amen. Donc c'est un mauvais calcul de garder quelque chose contre quelqu'un. Nous sommes les premiers qui allons être tourmentés. L'offense mine, nous persécute intérieurement et donc nous détruit à petit feu. Quand on pardonne, on lâche et on se détache. Donc, on coupe un lien. Ensuite, gérer les offenses consiste à libérer les autres aussi. On libère les autres aussi des conséquences de notre jugement. Vous savez que nous avons un pouvoir dans notre bouche? Oh là là! Vous savez, quand je m'en suis aperçu, quand j'étais jeune, il y a plusieurs années, que j'avais un de mes fils qui était assez vif, et je lui avais dit de ne pas sortir avec ses rollers. Et je ne sais pas, il m'avait répondu, et la manière dont j'ai réagi en tant que pasteur, je n'aurais pas dû, j'ai donné un coup de pied dans les rollers. Et je lui ai parlé sèchement. Alors on peut parler sèchement à ses enfants, quand c'est bien mesuré, alléluia, mais je n'aurais pas dû donner un coup de pied dans les rollers. Ben, une demi-heure après, il avait un accident en roller en descendant la route. On peut, sans s'en rendre compte, maudire les gens qu'on aime le plus. Parce qu'on a un pouvoir dans notre bouche. Vous connaissez ce passage dans l'Écriture où Élisée, il maudit les enfants qui sortent et il y a des ours qui viennent et qui les détruisent. Pourquoi? Parce que quand tu as reçu le pouvoir de Dieu pour bénir, et plus tu grandis dans ce pouvoir, plus tu as du pouvoir les jours où tu te tournes du mauvais côté. C'est pour ça que parfois, on ne comprend pas. Il y a certains serviteurs de Dieu, ils passent d'un esprit à l'autre. Ils vont prophétiser de la part de Dieu. Et le lendemain, ils sont sous l'influence d'un esprit familier. On dit, c'est possible, oui, c'est possible. Saül, il est secoué par l'esprit de Dieu toute la journée. Quand il se réveille, il veut encore tuer David. Hein. Et c'est pas parce que tu roules par terre sous l'onction de Dieu que ça veut dire que tu as laissé le Saint-Esprit travailler en toi. On va le savoir dans ta vie de tous les jours. C'est ta femme qui va le savoir, entre à la maison, c'est ton mari qui va le savoir, c'est tes enfants, les premiers qui vont le savoir. Vous recevez quelque chose ce matin? Et gérer les offenses consiste à libérer Dieu aussi. Vous allez me dire, comment libérer Dieu? Alors merci de ne pas mal interpréter ce que je veux dire par libérer Dieu. Lorsque je garde de l'amertume ou autre, je me positionne en juge et quelque part j'empêche Dieu, lui, de rendre son jugement. Qui est juste. Parce que n'imaginez pas que Dieu nous demande de pardonner pour qu'il n'y ait pas de jugement. Mais lui connaît le jugement qu'il faut donner aux gens et quand il faut le donner et comment il faut le donner. Et il sait donner du temps aux gens. Et il sait quand les gens sont arrivés au stade où ils veulent plus se repentir. Nous, on ne le sait pas tout ça. Mais aïe, 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 la Bible nous dit, en agissant de la sorte, en pardonnant, ce sont des charbons ardents qu'on amasse sur la tête des gens s'ils ne se repentent pas. Amen. Donc en pardonnant, je permets en réalité à Dieu de manifester son jugement, si jugement il doit y avoir. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice et de jugement. Donc il n'y a rien de mal, c'est tout à fait normal d'avoir faim et soif de justice et de jugement. Viendra au jour où les méchants seront punis. Ok? Et je dirais que même tout ce qui touche à des chrétiens, tout ce qui touche à des serviteurs de Dieu qui disent du mal et qui ne se repentent pas, connaîtront le jugement. C'est pourquoi on doit marcher sans la peur de Dieu, mais dans une sainte crainte aussi. Et ça, c'est une chose qu'il faut redécouvrir dans nos églises évangéliques. La crainte de Dieu. Hey, la crainte de Dieu. Le respect de Dieu. Qui a envie de voir la puissance de Dieu manifestée comme jamais auparavant, avec des bras qui repoussent, avec... Gloire à Dieu. D'accord. Mais il faut savoir qu'en même temps que la puissance de Dieu vient avec une mesure plus forte, le jugement vient avec une mesure plus forte. Okay? Et parfois, Dieu ne nous exauce pas quand on lui dit « Envoie toute la mesure de ton esprit dans l'église dimanche matin » parce qu'on risquerait d'avoir des surprises. Pasteur Cyril, était bien le culte dimanche, il y avait la puissance de Dieu. Oui. Combien de guérisons? Oh, 2 ou 3. Mais par contre, il y a eu 10 morts. Vous vous rappelez Ananias et Saphira? Ils ont raté leur offrande. Hein? C'est sérieux l'offrande pour Dieu. Amen. Tu mets ton cœur, tu ne joues pas avec ces choses-là. Dites-moi, les gars, ils ont voulu tromper Dieu. Moi, quand j'étais pasteur, j'ai des gens qui ont fait pire qu'Ananias et Saphira. Il n'y aurait rien arrivé. Quand j'étais jeune pasteur, tout ce qu'on a pu me faire passer,
quand je pense encore aujourd'hui que je n'accepterai plus aujourd'hui. Il y avait un jeune homme, il venait, il éclatait de rire à toutes les réunions. Je disais, waouh, l'onction de Dieu est sur lui, c'est merveilleux. J'ai appris plus tard qu'il fumait un pétard avant de venir. Vous êtes déçus. Vous êtes déçus au bout d'un moment. Hein? Après, il a mis une fille enceinte dans l'église. Il a pris la carte bleue d'une sœur et lui a vidé son compte en banque. Et il donnait des super témoignages. Dieu m'a changé. Aujourd'hui, je les bénirai avec mon pied droit, ces gens, ces personnes-là. Il y a des choses qu'on ne doit pas accepter dans l'église. Vous devez savoir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas accepter. Amen. Et on doit accepter d'être repris aussi. Parce que quand on est repris pour notre bien. Parce que le jour où l'onction de Dieu se manifeste avec plus de force, est-ce qu'on va être béni ou on va être maudit? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on est bénissable ou bien il y a des choses dans notre vie qui font qu'on va être jugé? Alors on ne veut pas le jugement pour vous ni pour moi. On veut la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donc si vous avez besoin de, je termine par là, de pardonner si vous avez été blessé, vous n'êtes pas un cas isolé. On a tous été blessés par quelqu'un. On a tous un parcours où on a été blessé. On a tous été frustrés dans notre vie. Avant de connaître Christ, d'accord, mais depuis qu'on connaît le Seigneur et dans l'Église. Mais le Seigneur, il nous met là pour devenir meilleur. Alléluia. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont plus difficiles à supporter, mais l'Église, c'est ça. Et puis un jour, peut-être vous irez trouver cette personne et lui dire « Félicitations, ma sœur. Depuis que vous êtes dans l'Église, j'ai grandi en sanctification à toute allure. » C'est pas prophétique. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains? Oh, manakabara bayashuna.